Tu connais le club Backseats ? Avec un abonnement à 15€ par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès aux débriefs, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le club Backseats, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD.
Eh bien écoutez, je ne sais pas si on aura la réponse, mais sans plus tarder, je vous propose qu'on accueille notre invitée politique cette semaine, la députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau. Bonsoir Sandrine Rousseau.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. C'est la troisième fois que vous venez sur Backseat. On vous avait accueilli dans la première saison.
Oui, ça a été mon premier buzz.
C'était votre C'était quoi? C'est un mauvais souvenir?
Qu'est-ce que...
Ah si, je me souviens.
Oui, c'était les hommes blancs à vélo. L'écologie ne se résume pas à des hommes blancs à vélo. Mais je pourrais redire cette phrase, mais je ne vais pas la redire. Hein.
Non, c'est bon.
Je la trouvais bien, moi.
Mais je me souviens, Canal+ avait voulu en faire son beurre, etc. Je m'en souviens très, très bien. Et alors, quand j'ai re-regardé les émissions de la première saison, à l'époque, on vous connaissait peu sur la scène nationale. On vous présentait sur Backseat. Ah, Sandrine Rousseau, on ne la connaît pas, c'est une candidate à la primaire, etc. Maintenant, on vous présente plus Sandrine Rousseau. Vous êtes une figure nationale.
Bah, ça, c'est à vous dire. Hein.
Je vous le dis, vous l'êtes, vous faites partie des députés.
Le soir.
Bah, les députés écolos, quand on pose la question aux gens, spontanément, il n'y en a pas des masses qui viennent de nom et le vôtre ressort. Quoi qu'il en soit, on a beaucoup de questions à vous poser.
Même les barbecues me connaissent maintenant.
Ouais, je crois qu'il y en a beaucoup. Et vous en recevez encore beaucoup?
Non, ça s'est calmé là. J'en ai une
pleut.
De temps en temps.
Bah, non, en même temps.
Ouais, il pleut, ouais, c'est ça. Ouais.
Et je parlais évidemment des messages de détracteurs qui ne trouvent rien de plus intelligent que de vous envoyer des photos de barbecue. Et ça, vous avez reçu ça tout l'été et même depuis plus d'un an. L'actualité internationale, c'est quand même ce qu'il y a le plus brûlant en ce moment. On en a parlé tout à l'heure, l'actualité, c'est le voyage d'Emmanuel Macron au Proche-Orient suite à ce qui s'est passé à Gaza et ce qui est en train de se passer en ce moment entre Israël et la Palestine. Est-ce que vous pensez qu'il a eu raison de se dépêcher sur le terrain, Emmanuel Macron?
Ah oui, je pense qu'il devait aller sur le terrain. Je pense que par contre, il devait avoir un message.
Et c'est quoi ce message?
Il ne l'a pas eu en fait. Bah, ce message, c'est un cessez-le-feu sur la bande de Gaza, pas de civils, on arrête les morts des civils, on fait une pause humanitaire. Pause humanitaire, c'était déjà un euphémisme par rapport à cessez-le-feu, et ça a été voté par l'Europe, il n'a même pas été capable de le dire. Et puis surtout, c'était l'idée qu'il fallait réinstaller un processus à deux États, et pas dire à Netanyahou ce qu'il avait envie d'entendre et à Mahmoud Abbas ce qu'il avait envie d'entendre.
Vous pensez qu'il a eu un double discours?
Bon, en tous les cas... Il n'a pas eu de discours qui permettait de remettre la France au centre du jeu.
Bah, il a proposé la proposition d'élargir au Hamas la coalition contre Daesh.
Et je vous ai entendu chez Frédéric Aziza sur Radio J proposer aussi une histoire de coalition pour aider à... j'ai écouté. Oui. Pour aider à détruire le Hamas.
Non, je... c'était pas une coalition avec Daesh, etc. C'était une coalition pour contrer le Hamas. Oui, moi je pense que ce qui s'est passé...
C'est pas très éloigné.
Pardon ?
C'est pas très éloigné, donc
ah bah non, c'est
faudrait
pas avec
que la France
Daesh,
aussi
l'État islamique, etc. Et en l'occurrence, moi, je pense que sur le Hamas, il y a un angle qui n'a jamais été posé, c'est la question du financement du Hamas. Et pourquoi on s'attaque pas au financement du Hamas ? Et en fait, quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la première des sanctions qu'on a prises, c'était des sanctions sur le financement. Pourquoi là, c'est pas du tout une question ? Et tant qu'en fait, il n'y a pas cette question qui est posée, on ne parle de rien, en vrai.
Là, il faudrait parler du Qatar.
Il faudrait parler du Qatar, il faudrait parler de notre dépendance au gaz, il faudrait parler des avantages fiscaux du Qatar en France, il faudrait parler des investissements du Qatar en France. Et là, on toucherait des sujets qui seraient un tout petit peu plus touchy. Ouais.
Raphaël ?
Je voudrais tout à l'heure poser une question sur l'antisémitisme, mais d'abord sur la réponse que vous venez de donner sur le contexte international. Vous appelez à un cessez-le-feu, je pense que c'est absolument nécessaire, eu égard les dégâts qui sont en train d'exister au sein de la bande de Gaza et du drame humanitaire qui est en cours. En revanche, il y a une question qui est celle que la paix, ce n'est pas juste une formule, ce sont des conditions. Le fait est qu'il y a encore 200 otages dans la bande de Gaza, que le Hamas ne semble pas prédisposé à les rendre pour le moment. Et surtout, l'État d'Israël vient de vivre une attaque massive fondamentalement anti-juive et que là non plus, il n'y a pas de garantie sur la question. Donc ma question, ce serait quelle modalité entrevoyez-vous pour permettre l'existence de ce cessez-le-feu.
Sandrine Rousseau.
Ah bah, la libération des otages, hein. Libération immédiate des
otages.
Le
Hamas ne veut pas pour l'instant.
Ah bah, c'est... Et sinon, il y a une mise sous pression, encore une fois, financière du Hamas pour faire en sorte qu'enfin, on s'attaque aux vraies sources de son action. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on se paye de mots en ce moment, beaucoup. Alors, il y a beaucoup de batailles de mots dans l'espace politique, mais on se paye de mots là où on devrait agir. Alors, on l'a vu, les... Quand je parle de sanctions financières, ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire. Évidemment, on peut aussi aller sur des instances internationales, nouer des alliances, etc. Ce qui est de plus en plus compliqué, en vérité, hein, pour la France notamment, parce qu'une partie du monde ne la juge plus comme au centre du jeu diplomatique. Mais donc c'est insuffisant, mais ce serait déjà quelque chose d'important et mettre la pression sur le Qatar pour faire en sorte qu'il se désolidarise de ça. Et en fait, rien n'est fait là. C'est-à-dire qu'alors on dit voilà, on pose des mots dans le débat public, mais en fait on ne monte absolument pas le rapport de force pour que le Hamas relâche les otages. Et le seul rapport de force que l'on monte, c'est vis-à-vis de la population civile gazaouie, laquelle souffre atrocement et paye de sa vie le conflit, alors même que les gens du Hamas sont souvent dans des souterrains, donc inaccessibles aux bombes, du moins moins en danger en tous les cas que la population civile, qui a nulle part où aller. Et en fait, on se contente de cela. C'est-à-dire qu'on a une forme d'acceptation, finalement, un peu tacite de cette situation.
Vas-y, Jules, vas-y.
Et quel levier aussi on pourrait avoir pour infléchir la politique de Netanyahou? Parce que pour faire stopper la poursuite des colonies, etc. Il se trouve que l'Union européenne sponsorise un petit peu en alimentant les services publics en Cisjordanie, etc. Il y a un levier économique. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi le saisir pour rendre... Parce que là, manifestement, le cessez-le-feu n'est pas l'horizon le plus immédiat. Mais comment aussi on sanctionne Israël en disant « Bon, là, le cessez-le-feu, on a un levier, on met une pression ».
Mais l'Europe est aux abonnés absents complets de cette crise, alors même qu'elle aurait une voix très importante à porter. Et en effet, ce qui se passe actuellement est quand même le résultat d'une politique certes ancienne, mais aussi une accélération de la politique de conquête de la Cisjordanie par Netanyahou, de l'enfermement de la bande de Gaza, et surtout une politique d'extrême droite qui favorise en Israël les courants les plus orthodoxes et les plus extrémistes. Et là, je regardais par exemple le financement des écoles ultra-orthodoxes par rapport aux écoles publiques, laïques ou modérées. En fait, c'est aujourd'hui elles qui reçoivent autant d'argent que la totalité des autres écoles, alors même qu'elles ont un nombre d'élèves, elles accueillent un nombre d'élèves bien inférieur aux autres. Donc en fait, la question, c'est comment on fait en sorte qu'on ne soutienne pas une politique d'extrême droite dans le règlement du conflit et un gouvernement d'extrême droite. Et en fait, là-dessus, aujourd'hui, on n'a aucune parole, c'est-à-dire qu'on est juste dans le droit de se défendre d'Israël, on est juste dans le soutien inconditionnel pour certains membres de... Enfin, la présidente, par exemple, de l'Assemblée nationale à Israël, et on ne met pas la pression sur la politique israélienne. Or, dans les derniers mois avant l'attaque terroriste du Hamas, il y a eu un mouvement social en Israël très fort, progressiste, si ce n'est de gauche, et qui contestait les réformes de Netanyahou. Et en fait, pourquoi on ne va pas chercher cette opinion publique-là en dénonçant l'inefficience de Netanyahou? Et ça, aujourd'hui, ça fait partie des paroles qui ne sont pas posées dans le débat.
Il y a juste un point qui est peut-être à amender, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est plus le gouvernement de Netanyahou
c'est
qui le commande.
C'est un gouvernement d'unité nationale.
D'union nationale. Donc, en réalité, ça n'est pas que Netanyahou, c'est quasiment l'intégralité des partis politiques qui aujourd'hui sont à convaincre en Israël.
Pourquoi on le légitime à sa place, là, en fait? Alors que c'est sa faillite.
Bien sûr.
C'est sa faillite personnelle.
Il y aura des élections,
pourquoi
je pense.
Pourquoi on le légitime dans les discussions internationales et pourquoi cette question-là n'est pas posée, en vérité?
Pourquoi quand il dit, le Hamas, c'est comme ISIS, on le met pas, y compris notre diplomatie, pourrait dire, mais alors pourquoi vous avez continué à le financer?
Exactement.
Pourquoi vous avez favorisé ce truc-là? Quand est-ce qu'on monte le ton, en fait?
Exactement.
Qu'il faudrait monter le ton avec Netanyahou?
Tout à l'heure, on a écouté un extrait du discours de Jean-Louis Bourlange, le président MoDem de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. C'était lundi dernier. Et dans son discours de fin, il disait qu'il avait entendu
comme une forme de consensus partagé par quasiment l'intégralité des députés pour dénoncer l'horreur, les attentats terroristes du Hamas et être en solidarité avec ses victimes et en faveur d'une solution à deux États qui est la voie que porte la France. Est-ce que vous partagez cet avis de Jean-Louis Bourlange qui dit que grosso merdo, tout le monde est à peu près d'accord dans la classe politique française ?
Alors non, je ne pense pas, mais je ne suis pas pourquoi complètement d'accord avec lui sur le fait qu'il y ait unanimité. Mais par contre, je pense qu'on pourrait trouver une voie qui soit une voie intelligente, intelligible, et qu'on pose dans le débat et qu'on emmène l'Europe sur ces positions-là. Mais en fait, on ne fait pas cet effort-là. C'est-à-dire que moi, j'ai été très impressionnée par la cacophonie de la diplomatie française dans les premiers temps de cette crise, suite à l'attaque, où on a Yael Braun-Pivet qui est parti quand même avec Éric Ciotti et Maher Habib. C'est pas des choix neutres en matière de déplacement à Israël. Alors, il paraît qu'elle nous avait invités. Moi, je n'ai pas reçu l'invitation. Alors, peut-être que ça s'est perdu. Je ne dis pas qu'elle ne l'a pas fait. Mais en tous les cas, ce choix-là, à la fin, devait quand même être interrogé. C'est un message politique qu'elle envoie. Elle est quand même le quatrième personnage de l'État. De l'autre côté, Emmanuel Macron, il va après elle, avec un message qui, lui aussi, est d'une confusion rare. Donc là, maintenant, il y a quand même quelque chose à poser, qui est de l'aide humanitaire d'urgence. Notamment, il y a un problème d'accès à l'essence, au pétrole sur Gaza, puisque une partie des hôpitaux fonctionne avec cela et qu'une partie aussi d'accès à l'eau dépend de cela. Et que là, il y a des enfants qui sont en danger au-delà des bombardements dans les hôpitaux. Donc là, maintenant, il faut préserver les civils. On ne peut pas accepter que parce qu'il y a des civils israéliens qui ont été massacrés, on ne peut pas fermer les yeux sur les civils gazaouis qui le sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des massacres par bombe de civils gazaouis.
Lorraine ?
Oui, mais vous disiez... Enfin, en fait, c'est trop bizarre de vous voyez Sandrine Rousseau, parce que je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois et tout. Donc voilà.
Oui, vous tutoyez, vous avez le droit à condition que tu dises pourquoi. Donc, tu peux y aller. Vas-y, Lorraine.
Ok. Tu disais que il y a une espèce de cacophonie en fait de messages diplomatiques, mais même en fait j'ai l'impression au sein de la NUPES il y a une cacophonie et on n'arrive pas à comprendre. Enfin en fait il y a pas de voix. Enfin vous vous êtes pas mis d'accord en fait et du coup enfin comment ça se passe? Est-ce que vous vous êtes mis dans une salle, vous vous engueulez? Bah visiblement j'ai pas l'impression puisque le groupe interparlementaire et en tout cas, par ELV et le PS, vous n'y assistez plus. Donc en fait, où il est cet espace de discussion pour retrouver une espèce de voix claire et audible en fait, parce qu'effectivement, il y a des messages clairs et à faire passer, notamment sur le sort des civils en fait.
Ben c'est exactement le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace où on discute. Il n'y a plus d'intergroupe là, depuis 2 ou 3 semaines maintenant.
Mais du coup, pourquoi le boycotter ?
Mais on ne boycotte pas.
Du coup, il permet de discuter de base.
Non, mais on ne le boycotte pas. Simplement, aujourd'hui, il n'y a plus d'espace de discussion. Et, je vais vous dire, ça me rend malade, ce truc. Parce que la vérité, c'est que la gauche a quelque chose à poser, là. Et précisément parce que, si la gauche n'intervient pas, on va être sous une espèce de bulldozer de discours d'extrême droite sur les guerres de civilisation. Moi, je pense que le principal risque là aujourd'hui, c'est qu'on tombe dans l'idée qu'on est véritablement dans une guerre soit de religion, soit de civilisation, ce qui se recoupe en partie. Et en fait, c'est pas ça. Ça n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on est dans un conflit de territoire, on est dans la protection des civils, mais on n'est pas dans une guerre de civilisation. Parce que si on accepte cette idée-là, alors on va direct sur le terrain de l'extrême droite. Et je trouve que nous n'arrivons pas à être audibles, nous la gauche, sur le fait que nous ne sommes pas dans cette situation. Nous sommes dans un conflit territorial, nous sommes suite à une attaque terroriste, et on essaye de trouver les voies et moyens pour apaiser les choses, aller vers la désescalade, protéger les civils et faire en sorte qu'on trouve une solution durable. Et ça, si nous ne posons pas nos mots là-dedans, eh bien, qui va le faire ? Et on voit, par exemple, en Espagne, la gauche espagnole qui a un discours bien plus fort que nous là-dessus. C'est elle, par exemple, qui a réussi à faire arrêter cette décision inique de supprimer l'aide internationale, enfin l'aide européenne, à Gaza. Et en fait, nous sommes inaudibles. Et ça me rend absolument malade. Donc, c'est pour ça que j'appelle tous mes camarades à venir.
Et en même temps, même là, vous avez dit guerre de territoire, conflit de territoire, plutôt que de dire guerre de colonisation, en fait.
Donc c'est les mots, je pense même la gauche pose pas non plus est-ce les mots et pas d'accord pour mettre les mêmes mots sur les... Bon, on a beaucoup ergoté sur terroriste, pas terroriste, est-ce qu'on l'emploie, on l'emploie pas, à quel moment. Mais là, même colonisation est un mot qui passe peu. Ouais.
Alors moi, je parle de colonisation de la Cisjordanie parce que je pense qu'il y a des colons en Cisjordanie.
Nettoyage et que... ethnique, est-ce qu'on peut dire nettoyage ethnique à propos de ce qui est en train de se passer?
Je pense des qu'on n'est pas encore là.
Des déplacements de population
forcés. Je pense que le risque est là.
En Israël aussi, il y en a.
Le risque est là.
200 000 personnes qui ont été déplacées aux frontières avec des points de guerre actuellement. Mmh. Donc c'est dans les deux côtés, en réalité, qu'on a ce problème-là.
Qu'il y a des déplacements.
Non, puis surtout, je pense que là, on est dans un risque de nettoyage ethnique, ça, je pense.
Ah oui.
Mais on n'y est pas encore. Et en fait, ça, pour moi, ça fait partie de ces mots justes que l'on doit poser dans le moment. Et ça n'est pas simple. Et c'est vraiment un exercice assez complexe, même en réalité, pour pouvoir aussi avoir une gradation de nos mots en fonction de l'évolution de la situation. Et là, aujourd'hui, ce qu'il nous faut absolument, c'est préserver les civils de Gaza et donc arrêter les frappes.
Raphaël avait une question sur l'antisémitisme.
Un des sujets qui a fracturé la NUPES ces derniers jours, c'est la question... du traitement de l'antisémitisme par la France insoumise. Et je tiens à le dire publiquement, je suis ravi de vous avoir en face parce que vous avez une parole d'une clarté absolument exemplaire sur le sujet, pas seulement sur Radio J, sur BFM TV, j'ai prêté beaucoup d'attention à vos interventions, dans lesquelles vous avez acté qu'il y avait un problème de traitement de l'antisémitisme, pas spécialement à ELV d'ailleurs, mais qui émanait éventuellement de LFI. Ma question, c'est que à partir du moment où on a un parti politique de la France insoumise qui n'est pas antisémite, moi c'est pas mon point de vue, mais qui emploie de façon régulière, répétée, malgré des avertissements d'associations juives de gauche qui les rencontrent, des tropes qui renvoient un imaginaire antisémite lorsqu'on dit le CRIF d'extrême droite avec son rayon paralysant, avec les génuflexions devant ces oukases arrogantes et communautaristes, quand on parle d'Elisabeth Borne qui se rallie à un point de vue étranger lorsqu'on invite Corbyn, enfin... Quand on a à ce point une multiplication de tropes, que nous, à chaque fois qu'on les rencontre, on se fait un peu envoyer balader, il faut le dire aussi un peu comme ça, est-ce que pour la NUPES, c'est possible de continuer sur ces bases-là? Et je le dis d'autant plus pour deux choses, c'est que, un, vous êtes le camp de l'antiracisme. Deux, si la gauche ne porte pas une parole claire sur cette question, les premiers qui vont récupérer ça, c'est l'extrême droite. Il y a un sondage qui vient de sortir qui est terrifiant, où Jean-Luc Mélenchon, sur la question de l'antisémitisme, je crois que c'est 17% de confiance contre Marine Le Pen qui a 40 et quelques. Et le risque, c'est qu'on va opposer, on va agiter des conflits intercommunautaires, pour le dire clairement, utiliser les Juifs contre les Arabes et vice-versa. Comment est-ce qu'on en s'en sort? Et est-ce que la NUPES continuer sur cette base-là?
Sans dénonce.
Déjà, moi, je n'ai pas dit que les filles étaient antisémites. Hein,
je n'ai pas dit non plus.
De manière.
Non, je n'ai pas dit non plus.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais par contre, je pense que, en fait... par exemple, ce qui m'a vraiment frappé après l'attaque du Hamas, c'est à quel point on n'arrivait pas à considérer les victimes civiles israéliennes à la hauteur de ce qu'on devrait les considérer. Et en fait, parce que le conflit israélo-palestinien a aussi structuré une partie du militantisme à gauche, il faut se le dire, eh bien, on est rentré direct par la cause palestinienne, ce qui... se comprend, mais dans un deuxième temps. C'est-à-dire que pour moi, il y avait ce premier temps où il fallait reconnaître la gravité de la situation et la gravité du massacre qui avait été fait en Israël.
Et ça ne vous empêche pas d'ailleurs de parler de la situation des civils de Gaza, pourquoi ça ne s'oppose pas.
Mais pour moi, pour entendre la question palestinienne, il faut d'abord avoir posé cette première étape de dire les mots les plus justes possibles sur ce qui s'est passé en Israël. Et en fait, aussi pour des raisons... d'aller vers un processus de paix et de rapport de force. C'est-à-dire que si on ne s'appuie pas sur une opinion publique israélienne de progressiste, de gauche, etc., pour même faire levier à l'intérieur pour aller vers un processus d'apaisement, en tous les cas, dans un premier temps, eh bien, on rate un coche. Et en fait, cette opinion publique progressiste israélienne, elle a besoin qu'on reconnaisse que c'est elle qui a été attaquée. Et oui, c'est des kibboutz, c'est des personnes qui étaient plutôt de gauche, et c'est des juifs qui ont été attaqués.
Ça a été reconnu, ça. Enfin, je veux dire, même crime de guerre, c'est aussi, ça a été pris comme un truc moins fort, mais crime de guerre, il n'y a pas de gradation. Oui, terrorisme, crime de guerre, etc. Il me semble pas que la France insoumise a commencé à dire non, mais c'est pas grave ce qui s'est passé, etc. Ce qui a été redit, hein, il y a eu un mouvement où Nathalie Saint-Cricq même a dit sur un plateau,
Oh, Jean-Luc Mélenchon, en rapportant n'importe comment les propos, oh, Jean-Luc Mélenchon a dit, oh, finalement, ils l'ont bien cherché, etc. Il y a une musique là qui est montée.
Non, non.
Là où.
Non, ça, moi, je dis pas ça du tout.
Non, mais.
Je dis que quand on est dans un moment d'émotion comme ça, mais après, moi, je vais encore me faire des ennemis et j'en ai beaucoup déjà. Donc, en fait, j'ai pas spécialement envie. Mais...
Il faut pas déformer non plus.
Mais dis tout ce que vous pensez.
Non, 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 mais je déforme rien. Simplement que quand on a un. Comme ça, 1400 personnes ou 1500 personnes qui ont été. Massacrés encore une fois avec une violence inouïe, des conditions, enfin les membres ont été échangés pour pas qu'on reconnaisse les corps, etc. Le mot à poser, c'est terrorisme. Et quand on le pose pas tout de suite, on peut le poser le deuxième ou le troisième jour. En fait, c'est pas grave. Et moi, c'est ça que je ne comprends pas dans la situation et en fait ça participe des questions, mais on avait déjà été confronté à des problèmes comme ça dans des épisodes précédents au sein de la NUPES, où quand on est face à une situation qui est objectivement compliquée, eh bien, on n'arrive pas à trouver les moyens pour que chacun et chacune convergent vers une position qui soit acceptable par tout le monde. Et en fait, pourquoi il y a une espèce de fermeture à l'idée de poser un mot?
Et du
pourquoi
coup,
en fait
et pourquoi? Et donc du coup, je vous pose la question, pourquoi?
Ah bah ça, moi,
vous avez une hypothèse?
Je me souviens quand je vous avais accueilli il y a 2 ans sur le plateau de Backseat, je vous présentais comme la plus Mélenchon compatible des écolos. C'était dans un contexte très différent. Et du coup, j'allais vous poser la question, est-ce que vous l'êtes toujours?
Oui, parce que...
Malgré tout ce que vous venez de dire?
Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas d'espoir sans la NUPES. Je pense qu'il n'y a pas de... Que quand on fait le budget de la sécurité sociale, il n'y a pas une once de différence entre les différentes forces politiques qui composent la NUPES. Donc voilà, simplement là, on est pour moi dans un moment où... en fait, c'est un peu un moment de vérité. Est-ce qu'on arrive à être intelligent ensemble ou est-ce que finalement on organise notre incapacité à prendre le pouvoir? Et en fait, là, c'est pour ça que moi je ne suis pas dans ceux qui disent ce sera plus jamais avec Mélenchon, ce sera plus jamais avec LFI. Mais par contre, ce que je dis aux partenaires de la NUPES, c'est de dire quand on a un problème comme ça, si on veut prendre le pouvoir, on doit être capable de discuter. C'est pas possible de s'enfermer chacun dans nos trucs, en fait. Et pour moi, ça me pose une question vraiment de gouvernance. Imaginez un instant qu'on soit au gouvernement, là. Enfin, vous imaginez la cacophonie.
J'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Non, mais j'ai beaucoup de mal à l'imaginer, effectivement.
Mais oui. Ouais, ouais. Et notre responsabilité, parce que ça n'est pas la seule crise qui est aujourd'hui dans l'actualité. La crise climatique est en train de prendre une proportion hallucinante. La crise sociale, pareil. Si on n'arrive pas à se parler au moment où on a des tensions, eh ben, je vais vous dire, on n'est pas prêt à gouverner. C'est ça la situation. Donc moi, j'appelle les copains d'LFI, et précisément parce que je veux continuer avec vous, à vraiment à se mettre autour de la table et ce qu'on discute et qu'on arrête les injonctions et qu'on arrête les trucs par Twitter où chacun va taper sur la tête de l'autre. Franchement, là, c'est pas au niveau. On n'est pas au niveau.
On a beaucoup de questions à vous poser aussi sur l'écologie. Vous parlez avec vos tripes et c'est très bien. On a aussi une nouveauté dans cette saison, c'est qu'on propose au public de vous poser des questions à nos invités politiques. On a une vidéo donc, qui nous a été envoyée par Alexandru qui a une question pour vous.
Bonsoir Sandrine Rousseau, bonsoir Jean, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Ce week-end, encore une fois, avec la manifestation contre l'A69 dans le Tarn, les faits et leur traitement par les médias mainstream, mais aussi par le gouvernement, se contredisent. Moi, en tant qu'adhérent Les Écologistes, qui baigne dans un entre-soi militant, je suis au courant de la réalité des choses, mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Alors voilà, la question n'est pas simple, mais comment faire pour que notre voix de défenseur des écosystèmes soit réellement entendue? Voilà, je vous remercie.
Sandrine Rousseau.
Eh bien, par exemple aussi, en parlant d'une seule voix sur le fait que nous ne sommes pas des éco-terroristes, parce que là, aujourd'hui, nous nous sommes fait happer dans le débat politique par cette idée selon laquelle nous serions une menace éco-terroriste. Et ça, dans le moment, précisément, utiliser ce mot, c'est grave, en fait. C'est très grave pour des gens qui sont juste allés défendre des arbres et un bout de nature et qui, au mieux, ont planté des tentes sur un terrain. Enfin, je veux dire, on est quand même à ce niveau-là. Et oui, il y a pu y avoir des heurts. Et encore, moi, sur l'A69, je n'en ai pas vu. Et j'ai appelé les copains et copines qui sont restés la nuit et qui n'ont pas vu non plus de heurts. Mais visiblement, il y a eu un camion qui a été incendié sur le chemin plus loin par un groupe qui s'est dissocié. Donc ça, j'ai pas vu, voilà.
Ça arrive, mais... hein, des camions comme ça.
Non, mais, je dis... non, mais c'est pas pour autant un acte terroriste, quoi. C'est pas pour autant un acte terroriste. Ah. Et là-dessus, on moi, je trouve l'attitude du gouvernement absolument irresponsable à criminaliser comme ça un mouvement écolo et une résistance à la destruction de la planète à un moment où tous les indicateurs montrent qu'on est vraiment dans un moment de bascule, mais inouï. Donc, en fait, qu'il faut criminaliser. Et pourquoi, dès qu'il s'agit de Total, alors là, ils sont tout fébriles et ils n'arrivent pas à prendre la moindre mesure ni sur les surprofits, ni sur les dividendes, ni sur rien. À chaque fois qu'on a essayé d'avoir la moindre mesure sur Total, c'était balayé. Donc là, tout de suite, il y a une espèce de défense. Par contre, nous, on défend trois arbres et là, c'est nous qui sommes les dangereux. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre des valeurs à remettre dans l'ordre. Donc non, nous n'avons pas besoin de cette A69. Nous n'avons pas besoin de cette autoroute. Il y a déjà une route qui fonctionne. Et je le redis, mais tant qu'on est dans le désenclavement de territoire par la route, on rend les gens dépendants de la voiture, donc dépendants de l'essence, et donc dépendants in fine d'énergies fossiles dont le prix va nécessairement augmenter et qui sont aux sources de bien des conflits dans le monde.
Raphaël.
Je pense que vous pointez quelque chose qui est assez essentiel pour décoder ce qu'est la Macronie. On en blaguait d'ailleurs un peu en conférence de rédaction, il s'appelle... Renaissance, ils auraient dû s'appeler les raisonnables ou les responsables. C'est vraiment cette idée de grand centre responsable et raisonnable, et puis les autres, c'est les fous, les débiles, ceux qui savent pas, les utopistes, ceux qui savent pas gérer les affaires. Est-ce que, malgré tout, la tripartisation de la vie politique ne participe pas précisément à accroître en permanence cette rhétorique-là, je le dis vraiment comme une question parce que je pense que je ne suis pas d'accord avec vous sur plein de points, mais je pense que les radicalités sont essentielles dans une démocratie. Raymond Aron, qu'on présente souvent comme un sorte de mou démocrate, disait que les radicalités en fait étaient essentielles pour animer les clivages politiques. Mais est-ce que du coup, cette tripartition de la vie politique n'entraîne pas une surenchère d'opposition et de radicalité les uns et les autres, et c'est pas du tout pour vous incriminer, vous en particulier.
Sandrine Rousseau.
Aujourd'hui, moi, je vais vous dire, celui que je trouve le plus radical, c'est Macron, en vérité. Et c'est un radical du libéralisme.
Non.
Parce que bah, quand il a fait... Non. Si on regarde les lois qui sont passées...
Jamais content, les libéraux. Il faut qu'on soit plus libéraux.
On nationalise le RSA, on n'est pas un libéral.
Ce qui est passé depuis un an, c'est la loi sur les retraites, la loi sur les chômeurs, la loi sur le RSA. Et en fait, c'est tout des lois qui partent de ce principe. Et là, je parle en tant qu'économiste très libéral, qui consiste à dire que si nous n'acceptons pas un emploi, c'est parce que les allocations sont trop élevées et que nous aurions une espèce de préférence pour l'inactivité plutôt que pour l'emploi. Et ça, c'est au cœur même des théories libérales. Et je le trouve vraiment excessif dans son amour du libéralisme économique, surtout dans une période de crise sociale comme on l'a. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour moi, la démocratie, c'est avant tout un art de perdre. C'est-à-dire qu'en fait, la démocratie, c'est une manière de gérer des conflits.
À gauche, on est très démocrate.
Vas-y, continuez, Sandrine Rousseau. C'est quoi cet art de perdre,
non, mais
la démocratie?
C'est humour, franchement.
Non, mais ouais.
Donc, la démocratie, c'est une manière de dire que quand il y a un conflit, quand on n'est pas d'accord, eh bien, on a une manière de gérer ce désaccord et on vote. Et donc, perd, etc. Et en fait, Macron ne supporte pas de perdre. Il ne supporte pas de perdre.
Il n'est pas libéral.
Eh bien, je pense qu'il a un vrai sujet avec l'altérité démocratique, ouais. En vérité, je pense.
C'est la seule idée d'avoir tort, ne lui est pas possible.
Oui.
Ok, d'accord, c'est ça que vous dites.
Okay. Et je pense que là, on atteint les limites de la Ve République. C'est que la Ve République donne bien trop de pouvoir à un homme qui refuse d'avoir tort.
C'est intéressant.
Et sur les retraites, comme sur le reste, si on avait voté, eh bien, il aurait perdu. Et finalement, notre démocratie aurait gagné à la fin. Lui, il aurait perdu, mais notre démocratie aurait gagné. Et là, on a l'impression à chaque fois qu'on est dans un espèce de combat presque personnel, d'égo trip presque.
C'est très psychologisant comme analyse. On pourrait regarder ça aussi en termes de rapport de classe. Est-ce qu'on n'a pas une bourgeoisie qui se radicalise, dont il est le meilleur porte-parole, qui l'a porté au pouvoir, qui a voté pour lui particulièrement la deuxième fois d'ailleurs? Il y a un compromis en fait social qui était celui issu de la libération auquel la bourgeoisie ne veut plus adhérer et donc elle se radicalise et ça explique aussi le voilà, c'est mieux que de parler de la psychologie de Macron, non?
Non, mais je pense qu'il y a des rapports de classe, qu'il y a des rapports de force, qu'il y a en effet une bourgeoisie qui s'inquiète de la situation et qui fait tout pour conserver ses acquis et ses privilèges au sein de la société. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Maintenant, je pense que même un De Gaulle, par exemple, avait été bourgeois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Et pour autant, il avait quand même cette forme d'acceptation d'un compromis démocratique où...
Avec les communistes, avec les chrétiens démocrates, etc.
Ouais, non, mais c'est vrai. Ben oui, non, mais c'est vrai. Mais c'était... Même j'ai envie de vous dire, voilà, même Sarkozy ou Chirac acceptaient la défaite. Là, donc, c'est pour ça que je pose une question de psychologie qui est en plus de hall de gare ou de comptoir, parce qu'en plus, je ne le connais pas, donc je l'ai vu une fois dans ma life. Voilà, et ça n'a pas été le meilleur moment de ma vie par ailleurs. mais donc voilà, je pense que par ailleurs il y a quand même un truc un peu personnel.
On a des questions aussi sur l'éco-anxiété, il y a notamment Benoît qui a une question pour vous.
Salut Baxit, salut le chat, bonsoir Madame Rousseau. Vous qui portez un projet de société en rupture avec les logiques capitalistes et dominatrices actuelles, vous êtes une des personnes les plus aptes à répondre à cette question. Sachant que dans l'histoire, la démocratie s'est toujours imposée dans des cadres de croissance où on pouvait rallier la majorité de la population autour d'un projet, comment est-ce que nous pouvons continuer de faire société dans un monde dont les ressources se contractent, dans un monde où l'environnement s'effondre, et dans un monde où le tissu social même semble n'avoir plus aucun sens ?
Ah, les vraies questions, là.
Hein. Sandrine Rousseau. Wow. Comment on fait ?
Ça, mais je vais vous dire, en plus, pour moi, ça, c'est la vraie ligne qu'on devrait discuter au sein de la gauche, en vrai. Mmh. C'est-à-dire qu'entre les productivistes et les non-productivistes, entre les croissantistes et les non-croissantistes. Moi, je pense que là, on est dans une situation telle, de gravité telle, que tous les euros que nous dépensons dans la dépense publique devraient être jugés à l'aune de ce que ça génère en termes de protection ou de diminution du CO2. Protection des humains, diminution du CO2. Et j'irai même au-delà, c'est que nous devrions avoir un débat national, là, maintenant, précisément parce que nous n'avons que quelques mois, si ce n'est au mieux quelques années pour agir, de ce dont nous avons absolument besoin et ce dont nous n'avons pas forcément besoin. Et sur la base de ce dont nous avons besoin, alors nous assurons les ressources pour garantir à tout le monde l'accès à ces besoins. Et je pense que, par ailleurs, il nous faudrait aussi réinvestir la notion de commun. Parce que ce qui a été très flagrant et ce qu'on oublie très souvent dans la période des 30 Glorieuses, qui sert quand même beaucoup de référence encore aujourd'hui, eh bien, c'est qu'on a fait un compromis social où on a sorti des choses du marché. On a sorti la sécurité sociale, la santé du marché, on a sorti l'électricité du marché d'une certaine manière, puisqu'on a fait de la péréquation tarifaire. Je ne vais pas développer tout ça, mais on s'est dit, voilà, on a besoin d'électricité, on a besoin d'eau, on a besoin de téléphone à l'époque, on a besoin de santé, on a besoin d'éducation. Et tout ça a été sorti du marché au motif que c'était commun et que c'était le ciment de notre société. Aujourd'hui, nous devrions nous reposer cette question fondamentale qui est de quoi on a absolument besoin, qu'est-ce qui est commun, et assurer ça à tout le monde. Et après, le reste, eh bien, on le régule et on le sort de l'action publique. Et en fait...
Ouais. Non, mais on a encore beaucoup de questions à vous poser. On est déjà pratiquement à la fin. Lorraine, tu avais une question sur l'éco-anxiété, je crois.
Oui. Alors, en fait, justement, le rapport du CESE montrait donc il y a 8 Français.
Juste, pardon, mais comme ça, au moins, on aura une forme d'adhésion au modèle.
D'accord.
C'était okay. Le point final à la pensée.
Mais voilà, c'est ça. Non, mais c'est parce que c'était la question quand même.
C'était
comment
la question,
on fait adhérer?
On fait.
Donc voilà, on fait adhérer comme ça.
Ok. Donc du coup, le rapport du CESE nous disait, il y a 8 Français sur 10 qui sont éco-anxieux. Et récemment, il y a un débat qui a déchaîné un peu les passions dans les médias. C'est sur le fait de faire ou non des enfants. Donc du coup, il y a Salomé Sacquet qui, dans son livre, dans son dernier livre, a dit justement que vu son éco-anxiété, elle, pour l'instant, en tout cas, ne souhaitait pas faire d'enfant. Donc Salomé Sacquet, journaliste notamment à Blast. que Usul connaît bien.
Très bonne maison.
Thomas Pesquet, l'astronaute, lui, a dit en fait qu'il ne souhaitait pas avoir d'enfant parce que justement ce serait sa compagne qui aurait à les assumer seule, vu qu'il serait dans l'espace. Et d'un autre côté, on a aussi Aurore Berger qui, elle, par contre, dit qu'il faut absolument relancer la natalité. Et du coup, en tant que écoféministe, comment tu te situes là-dessus ?
Et on est en plein dedans là, ouais. Du coup, à l'intersection.
Et ben là où je me situe, c'est de dire lâchez nos utérus en fait. Lâchez nos utérus. Nos utérus nous appartiennent. On en fait absolument ce qu'on veut. Et c'est pas des politiques publiques de natalité qui vont relancer quoi que ce soit. Et c'est pas des décisions collectives de pas faire d'enfants qui vont relancer quoi que ce soit. C'est de l'ordre du choix personnel et individuel. Et par ailleurs, dans les politiques natalistes, enfin, je rappelle quand même que derrière affleure, alors, parce qu'on l'entend beaucoup ça à l'Assemblée, affleure une théorie très suprémaciste, en réalité, qu'il faudrait que ce soit les femmes blanches qui fassent des bébés parce que les blancs, les chrétiens, les machins, et que ça, vraiment, votre brin, en fait, on n'en veut pas, quoi. Voilà. Et que nos utérus nous appartiennent.
Dernière question, Usul.
Ah bon?
Ouais, après on va devoir.
Merde, j'avais rien là dessus.
Ah, t'avais rien, mais je croyais que tu me demandais la parole tout à l'heure.
Ouais, mais tout à l'heure, mais du coup c'est plus dans le sujet.
Du coup c'est plus dans le sujet. Bon, est-ce que t'as une dernière question, Raphaël?
Finalement, vous êtes plus libéral que vous le dites, parce que quand on est à ce point attaché à ce qui est moins de verticalité, à ce qui est plus de compromis, à ce qui est plus de respect des corps intermédiaires, je vois pas ce qu'il y a de plus libéral.
Non, parce que je suis pour qu'il y ait un état social et écologique qui encadre sérieusement l'activité de
mais pas des utérus.
Économique.
Et d'ailleurs,
ça fait non, mais c'est en fait la question, c'est tout le libéralisme social, sociétal et la différence avec le libéralisme économique. Et le libéralisme économique, pour moi, a chopé cette idée de liberté là où au contraire il n'y a que contrainte en vérité. Et la liberté des individus, elle est fondamentale.
Et juste et oui, mais elle peut avoir des limites parce que si on commence à déterminer
des
communs,
la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Oui.
Ouais, et si on commence à déterminer des communs, il va peut-être falloir revenir aussi sur cette notion que certains ont un peu sacralisée de propriété privée.
Il va peut-être falloir revenir
très sérieusement. C'est peut-être là la limite de finalement libéral. Oui, peut-être pas jusqu'au bout non plus, quoi.
Oui. Mmh. Et là, notamment, je pense qu'il y a vraiment une question autour de l'appropriation du foncier, que ça soit en France ou ailleurs, qu'il nous faudrait regarder de près parce qu'il y a des stratégies d'acquisition du foncier pour se préserver des espaces qui nous permettraient de vivre dans la catastrophe. Et je pense que là, nous devrions regarder ça de très près. Après, vraiment, parce que je voudrais pas non plus vous déprimer. Je suis très éco-anxieuse à l'Assemblée parce que c'est vraiment la catastrophe. Mais en fait, le monde, si c'est un monde de protection, un monde écolo, c'est quand même un monde bien plus vivable en réalité que ce qu'on a actuellement et bien plus agréable que ce qu'on a actuellement. Et c'est un monde où on passe pas sa vie à faire du métro, boulot, dodo et finalement, peut-être on la gagne mieux, quoi.
Merci beaucoup Sandrine Rousseau d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci, je vais vous laisser quitter le plateau.